Bon matin. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que ça vous arrive de vous planter? Ça vous arrive-tu de vous planter? Et là, je parle pas là, que vous êtes parqué en parallèle au centre-ville puis que vous ne regardez pas puis vous foncez dans la Mercedes en arrière. Je parle là que vous vous plantez, là, que vous commettez un péché puis vous le savez. Ça vous arrive-tu? Je ne sais pas, moi, y a-tu des maris ici, ça leur arrive, tu sais, vous êtes en train de discuter avec votre femme, puis d'un coup, vous dites quelque chose que vous savez que vous n'aurez vraiment pas dû dire. Ça leur arrive-tu? On est dit non, ça n'arrive pas, hein? Ou encore, je ne sais pas, ça peut-tu arriver que des fois, tu sais, on sait qu'on ne devrait pas, mais on commence à calomnier, on parle dans le dos du monde, on dit des affaires, tu sais, des fois c'est même pas vrai, des fois c'est vrai, mais c'est juste pas gentil. Ça l'arrive-tu des fois? Hein? On sait qu'on devrait pas. On sait qu'on a péché, que c'est pas correct ce qu'on fait. Mais on le fait pareil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Hein? Vous êtes difficile à matin. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On demande pardon. Bon, j'entends ça, je pense, à quelque part dans la salle. On demande pardon. Eh bien, ce matin, ce que je veux faire, je veux regarder une histoire avec vous dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 11 et 12. On va regarder ça. C'est 4 étapes à la repentance. Une histoire dans la vie de David, où ce que David, lui, s'est planté. S'est planté bien comme il faut. 2 Samuel 11 et 12. Et puis, on va regarder, lui, qu'est-ce qu'il a fait. Premièrement, pour se planter, et aussi comment il a fait pour s'en sortir. On va regarder ça en 4 étapes. Premièrement, on va regarder le péché qu'il y a eu dans sa vie, un péché qui a été dévastateur. Deuxièmement, une réprimande qui a été très, très saisissante, faite par le prophète Nathan. Troisièmement, une réelle repentance. David s'est repenti de ses péchés, il a demandé pardon. Et finalement, les conséquences inévitables auxquelles que David a dû faire face. Alors, regardons premièrement le péché, un péché qui était totalement dévastateur. On va commencer au chapitre 11. À partir du verset 1, ça dit que David était à la maison plutôt qu'être à la guerre avec son armée. Verset 1, 2 Samuel 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab et avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. David était à la maison plutôt qu'être en guerre avec son armée. Ce n'était pas sa place. Normalement, David, c'est un grand guerrier, on le sait. Partout dans l'histoire de 1 et 2 Samuel, c'était un gars qui était très respecté par les soldats de son armée. Et puis, et ce jour-là, on ne sait pas pourquoi, mais il a décidé de rester en arrière. Et puis, ça a amené des conséquences. S'il avait été à guerre, rien de toute notre histoire serait arrivé. Mais au verset 2, on lit. « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très, très belle de figure. » Alors, il se lève, pas capable de dormir, il se lève, ça va sur son toit, puis dans ce temps-là, bien sûr, les toits étaient plats, capable de marcher, et puis il voit une femme qui est là en train de se baigner, puis il voit, oh, elle est belle, elle. Et on voit ce qui va se passer après, au verset 3 et 4. Malgré le fait que c'était une femme mariée, il a fait venir chez lui pour coucher avec elle. Regardez à partir du verset 3. David fut demandé qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Alors, David, comme je disais, s'il avait été à la guerre avec son armée, rien de tout ça serait arrivé. C'était pas fort. Encore là aussi, quand il a regardé la femme, quand il l'a vue, il aurait pu juste se détourner les yeux. Il aurait pu retourner dans sa chambre, puis se fermer les yeux, puis essayer de dormir, puis dire « je ne pense plus à ça ». Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Il l'a fait venir, et puis des mauvaises choses qui sont passées. Et puis, par après, il y a eu des conséquences. La femme est tombée enceinte. Au verset 5, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Personnellement, je ne sais pas, mais il paraît que c'est quelque chose qui arrive quand un homme et une femme couchent ensemble, des fois la femme tombe enceinte. C'est une conséquence inévitable. Et puis, là, David, il y avait un méchant problème sur les mains. Un méchant problème. La femme, le mari de Bathsheba, c'était Uri le Hétien. On apprend un peu plus tard que c'est un des meilleurs soldats à David. Lui était parti à la guerre et c'était bien évident que le bébé, c'était pas son fils. Le gars, il allait revenir de la guerre puis il se dirait « Oups, qu'est-ce que tu fais enceinte? » Là, ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Là. Alors David, il avait un méchant problème sur les mains. Alors, qu'est-ce que vous pensez que David a fait? La plupart du monde, vous connaissez l'histoire déjà. Mais David, pensez-vous qu'il a décidé « Ah, là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, Seigneur, je te demande pardon. Je vais aller demander pardon à Uri aussi, c'était pas correct ce que j'ai fait. » Y a-tu fait ça? Non, il n'a pas fait ça. Il a décidé à la place, par plusieurs moyens, de couvrir son péché plutôt que de s'en repentir. C'est verset 6 au verset 13, on n'a pas le temps de toutes les lire. Mais pour résumer, il a fait revenir Uri du champ de bataille. C'est, comme je disais, c'est un de ses meilleurs soldats. C'est pas fort là, de faire revenir un de tes meilleurs soldats quand tu es en guerre. Après ça, il essayait de le renvoyer chez eux, il disait, bon, ben, tu sais, je suis content que tu sois ici, retourne chez vous, tu sais, prends une journée de congé. Lui espérait bien sûr qu'Uri retourne chez eux, qu'il aille voir sa femme, puis qu'il pense plus tard, quand que l'enfant quand que l'enfant naîtrait, que c'était le sien. Mais bien sûr, vous connaissez l'histoire. Uri n'est pas retourné chez eux, il disait, c'est pas correct pour que moi je retourne chez nous. Pendant que toute l'armée est sur le champ de bataille. C'est pas correct, moi, que j'aille, que je prenne une journée de congé. Alors, il a décidé de dormir à la porte du palais. Alors, le lendemain, David il apprend ça. Il se dit, qu'est-ce que tu as fait là? T'es pour retourner chez vous? Uri a dit, non, je peux pas y aller. Là. C'est pas correct. Alors, David, il a dit, bon, ben je vais essayer de quoi d'autre. Il décide de l'inviter à un party ce soir-là. Il essaie de le saouler, il se dit, peut-être bien s'il est sous, il va retourner chez eux. Non, même sous, Uri était tellement convaincu qu'il ne fallait pas qu'il retourne chez eux, qu'il a décidé, encore une fois, de dormir à la porte du palais. Ça, c'est un gars qui avait des convictions. Alors, David, dernier recours, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, il a fait de quoi de terrible. Il a fini par faire tuer un de ses meilleurs soldats. Il a renvoyé Uri au champ de bataille avec une lettre dans la main, une lettre qui contenait son arrêt de mort. Une lettre qui disait au capitaine de l'armée, « OK, quand Uri arrive, tu le mets en avant, puis après ça, tu fais reculer toutes les autres pour qu'Uri se fasse tuer. » David a fait tuer un de ses meilleurs et un de ses plus fidèles soldats. Il aurait tout évité ça. S'il avait décidé de se détourner de son péché suite après qu'il ait couché avec Bathsheba, s'il avait décidé de juste se mettre devant Dieu et dire « Seigneur, je te demande pardon », il aurait pu tout éviter ça. Mais à cause qu'il n'a pas voulu se détourner de son péché, il a eu un péché, il a commis un autre, il a été stupide, il a fait revenir un de ses meilleurs combattants, il a fait saouler son meilleur combattant, ce qui était vraiment pas correct non plus. Il a manipulé, il a menti, et finalement, il a commis un meurtre. Les péchés se sont juste empilés. À la fin du chapitre, David, il pensait peut-être, par contre, qu'il avait finalement pu cacher son péché puis que tout allait s'arranger. Là, il se disait sûrement, là, « Je suis correct, là, Uri est mort. Le monde va sûrement penser que quand il est revenu chez eux, qu'il est allé voir sa femme, dans le fond, c'est son enfant à lui. Je pense que je suis correct. Hein? Je pense que j'ai caché mon péché. » Mais on lit au tout dernier verset du chapitre 11 ce que David avait fait déplu à l'Éternel. Il a passé tout son temps à essayer de cacher son péché à tout le monde autour de lui. Puis, au bout du compte, là, il aurait tellement dû plus être préoccupé parce que Dieu pensait de son péché. Puis de la même façon, on pense souvent que tout va bien si nos péchés sont cachés aux autres. Il y a sûrement du monde ici, je pense qu'on a un assez grand groupe, il y a sans aucun doute des hommes ici qui ont des problèmes, que ce soit de colère. Hein, quand vous perdez les pédales, c'est pas beau à voir. Puis vous dites, dans le fond, c'est pas si grave que ça, pas personne d'autre le sait, c'est juste chez nous. Ou peut-être encore du monde qui a un problème de pornographie, vous vous dites, je suis pas capable de m'en débarrasser, de toute façon, c'est pas grave. Pas grand monde qui le savent. Vous pensez sûrement que c'est correct si personne ne le sait. Puis pensez-y, c'est quoi votre péché, vous, que vous cachez? Je suis certain que tout le monde ici en a un. C'est quoi votre péché que vous cachez? Vous pensez peut-être que c'est correct, c'est pas grave si personne ne le sait. On pense souvent que tout va bien si nos péchés sont cachés aux autres. On est souvent aussi préoccupé parce que les autres penseraient de nous si nos péchés étaient dévoilés. Si quelqu'un apprenait que j'avais un problème de colère, qu'est-ce que je ferais si quelqu'un apprenait que j'avais un problème de pornographie? Hein? On est tellement préoccupé par ça. Dans le fond, là, on devrait être beaucoup plus préoccupé parce que Dieu pense de nos péchés. On devrait être beaucoup plus préoccupé parce que Dieu pense de nos péchés. Alors, David a commis un péché horrible. Et puis, un peu plus tard, il y a quelqu'un qui est venu pour le réprimander. Une réprimande qui a été très saisissante, comme on va voir, à partir du chapitre 12. Environ un an plus tard, Dieu a envoyé le prophète Nathan à David. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 du chapitre 12. 2 Samuel 12, versets 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. » Mettez-vous à la place de David, là. Ça a dû fesser. Il vient de dire, « Cet homme-là, il mérite la mort. » Et puis là, Nathan il dit, « Tu es cet homme-là. » En gros, tu mérites la mort, tu viens de le dire toi-même. Aïe aïe! Aïe aïe! Moi, je me mets à la place de David, ça a dû fesser. Alors, remarquez dans la réprimande. Premièrement, comment David a conduit, Nathan a conduit David à prononcer sa propre condamnation. Nathan, il n'est pas rentré chez David en disant David, t'es pas correct, je sais ce que tu as fait, je sais que tu as essayé de cacher ton péché, puis Dieu, il sait, lui, puis Dieu va te juger. Non, il n'est pas rentré de même. Il a été beaucoup plus. Il a eu beaucoup plus de stratégie que ça, là. Il est passé un peu par la porte en arrière, puis il a raconté une belle parabole, puis une parabole pour montrer exactement ce que David avait fait. David, lui, il réalise pas qu'il est en train de se jeter dans la gueule du loup. Puis il dit, « Ah, cet homme-là, il est pas correct, ça n'a pas d'allure ce qu'il a fait. » Nathan, il peut finalement dire, « C'est toi qui as fait ça. » Regarde, Uri, là, il y avait juste une femme. Toi, tu en as plein. Puis quand tu as décidé de convoiter, tu n'as pas décidé d'aller voir une des femmes de ton harem. Tu as décidé plutôt d'aller chercher la femme d'un autre, puis tu as tué le gars en plus pour avoir sa femme. C'est débile, pareil. Nathan aussi, il est allé avec amour, mais il a quand même repris David assez fermement. Nathan, il aimait David assez pour vouloir son bien. Il voulait que David se détourne de son péché. Il a été avec amour, mais il a été aussi très ferme avec lui. Quand il a dit « Tu es cet homme », je pense pas qu'il l'a dit comme une moumoune. Il n'a pas dit « C'est toi ». Non, non, il a... Je suis certain qu'il a vraiment dit « Tu es cet homme ». Peut-être, je ne sais pas s'il l'a pointé, là, mais je suis certain qu'il l'a dit avec assez de conviction. Il l'a repris très fermement. Aussi, remarquez à quel point que Nathan a été courageux d'aller réprimander le roi. Dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui que n'importe quel blogueur du Journal de Montréal peut dire des conneries sur nos politiciens, puis tu sais, le politicien peut pas faire grand-chose, même que si le politicien décide de répliquer, ça va pas bien pour lui. Quelqu'un voit un de nos premiers ministres se promener dans la rue, on peut leur crier des bêtises, puis si le premier ministre décide de se revirer de bord, puis il décide de répliquer, on s'entend-tu que ça va faire les journaux le lendemain matin? Hein, les politiciens aujourd'hui n'ont pas ce pouvoir-là. Ils n'ont pas le droit de répliquer. Mais dans ce temps-là, si un roi n'aimait pas le message que son messager lui apportait, là, vous savez ce qui arrivait? Il n'a plus de messager. Il n'a plus. Nathan, il était très, très courageux. Il savait très bien que si David n'aimait pas ce qu'il disait, là, c'était fini pour lui. Nathan était très, très courageux d'aller voir David. Alors, de la même façon, n'ayons pas peur de reprendre nos frères et sœurs qui sont dans le péché. Si vous voyez quelqu'un, et je suis certain qu'il y en a que vous voyez, qui sont dans le péché, qui ne veulent pas s'en détourner, n'ayez pas peur d'aller les reprendre. Assurez-vous quand même d'avoir des preuves tangibles, de savoir que c'est vrai ce dont vous allez les accuser. Mais n'ayez pas peur, ayez le même courage que Nathan avait. Malgré tout, par contre, faisons-le avec amour, avec compassion, sans air de supériorité. Faisons-le aussi dans la prière. Une des pires choses que vous pouvez faire, c'est d'aller reprendre quelqu'un avec un air de supériorité. Croyez-moi, je le sais très bien. Je l'ai essayé plusieurs fois que j'essayais d'aller reprendre quelqu'un, j'avais un air de supériorité, je me disais, moi, je vais aller le reprendre parce que moi, je suis meilleur que lui. Allez pas reprendre quelqu'un avec un air de supériorité. Un peu comme Nathan a fait. Nathan, il réalisait que lui aussi, c'était un pécheur, mais qu'il avait besoin d'aller aider son roi. De la même façon, vous aussi, allez pas avec un ton de condescendance quand vous parlez à quelqu'un de son péché. Et une autre chose qu'on apprend dans cette histoire que je trouve vraiment merveilleuse, c'est sachez que si vous avez péché, Dieu va venir vous chercher pour vous conduire à la repentance. Ça, je trouve ça merveilleux. Parce que Dieu sait comment de fois que je pêche, combien de fois que je m'enfonce dans mon péché, que je m'entête à pécher. Et Dieu est toujours là pour... Il veut revenir me chercher. Et c'est la même chose avec vous. Je l'ai vu... Il y a quelques mois, mon père, pour qui ça fait toute ma vie que je prie, qui s'est détourné de Dieu, depuis avant que je suis né, qui avait décidé de se détourner de Dieu. Ça fait quelques mois que Dieu a finalement eu son attention. Dieu a décidé d'aller le rechercher. Mon père s'est détourné de ses péchés, s'en est repenti. C'est merveilleux à voir. Vous en connaissez sûrement aussi du monde qui se sont détournés de Dieu et que Dieu a été les rechercher. Puis sachez que n'importe qui est un enfant de Dieu, Dieu va aller le rechercher parce qu'il les aime, ses enfants. Maintenant, regardons la repentance de David. Au verset 13, j'aime beaucoup le verset 13 dans 2 Samuel 12. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » C'est-tu pas merveilleux, ça, pareil? David, il s'est rapidement repenti. Ça n'a pas été long. Il a juste dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il n'y avait rien d'autre à dire que ça. C'est tellement simple, mais c'est tellement puissant la façon qu'il dit, je trouve. C'est quoi ça veut dire de se repentir? Il y a sûrement du monde aussi que je parle de repentance depuis tantôt. Je n'ai aucune idée de quoi je parle. Se repentir, c'est de regretter un acte commis et de s'en détourner. C'est faire un U-turn. Alors, si Dieu il est là, puis le péché est là-bas, alors tu t'enfonces dans ton péché, tu es en train d'aller dans ton péché. La repentance, c'est dire, « Oups, je ne m'en vais pas dans la bonne direction. » Tu te revires d'abord et tu te retournes vers Dieu. C'est ça, la repentance. Remarquez aussi comment que David a réagi dans sa réponse. David, il n'a pas fait d'excuses. Ça, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, dans mon adolescence, il y avait des fois où je manquais de respect envers ma mère. Je suis sûr que je suis pas le seul jeune à avoir fait ça, ou même le seul moins jeune. Je suis sûr que les parents aussi, vous vous en souvenez que vous avez fait ça. Je suis pas le seul ici à l'avoir fait. Ça ne veut pas dire que c'était correct. Il y a des fois où je manquais de respect envers ma mère. Et puis, je chialais après, peu importe. Et puis là, un peu plus tard, René venait me voir, puis là, il me disait, « Jeff, c'est pas correct la façon que tu agis avec ta mère. » Puis, savez-vous qu'est-ce que je faisais? Moi, je disais pas, « Ah oui, j'ai péché contre l'Éternel. » C'est pas ça que je disais. Non, moi, ce que je faisais des excuses. Ben là, elle n'a pas été gentille avec moi. Ben là, elle m'a demandé de quoi de vraiment irraisonnable. Puis, tu sais, je faisais plein d'excuses. Tout parce que je voulais pas avouer que j'avais tort. Je voulais pas avouer que j'avais péché. Ça vous arrive-tu, vous autres, de faire des excuses? Quelqu'un vient vous reprendre, là. Ouais, mais... Ça vous arrive-tu? Je suis sûr que non. Aussi, David ne s'est pas retourné contre Nathan. Il n'a pas dit, « Ouais, mais t'es pas mieux, toi. Toi, je t'ai vu la semaine passée, t'es en train de cruiser une fille, puis tu lui parlais un peu trop gentiment, puis est-ce que je trouve ça pas cool? » Non, il n'a pas dit ça. David, il a tout simplement dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Souvent, je le vois ça aussi, avec le monde face à face, on essaie d'aller les voir et leur dire, tu sais, hey, ce que tu fais là, de la façon que tu vis, tu sais, ça glorifie pas Dieu. Puis là, ils disent, ah, mais t'es pas mieux, toi. On peut parler de moi plus tard, là, j'essaie de te parler de toi, là. Non, mais. Hein, je suis sûr qu'il n'y a pas juste les jeunes face à face qui font ça aussi. Je suis sûr que ça arrive aussi chez les adultes. On se revient contre la personne qui essaie de nous reprendre. Aussi, il n'a pas crié, arrête de me juger. Ah, ça, on l'entend souvent face à face. Celui-là, là, arrête de me juger, t'es pas correct. Hein? L'avez-vous déjà entendu celui-là? Là, je suis écœuré de l'entendre, honnêtement, là. Je suis écœuré de l'entendre. Oh, arrêtez de me juger. Oui, je sais, je passe mon temps à aller me saouler d'un bord, mais tu me juges, t'es pas correct. David, lui, il a pas fait ça. La réelle repentance, quand on se repent pour vrai, on ne crie pas toutes sortes d'affaires de même. Aussi, David, il n'a pas joué à la victime. Il n'a pas dit, à Nathan, « Ouais, mais là, elle était tout nue en train de se laver sur son toit, puis tu sais, elle s'est jetée sur moi carrément, c'est elle qui m'a demandé de venir au palais. C'est moi une victime là-dedans, là, tu sais, mes hormones sont trop fortes, qu'est-ce que tu veux? Hein? » Il n'a pas joué à la victime. Il n'est pas retourné chez eux après écrire sur Facebook, dire « Nathan n'a pas été gentil avec moi. Tout le monde, on se remet contre Nathan. Aimez ce statut si vous êtes d'accord avec moi. » C'est drôle que les jeunes trouvent ça drôle. Restons, je ne sais pas de quoi je parle. Hein? Il n'a pas joué à la victime, David. Et aussi, c'est pas repenti simplement parce qu'il avait peur des conséquences. Ça se peut-tu, ça, des fois, que on pêche, puis qu'on se revire d'abord, puis tout de suite, on dit à Dieu, « Ah, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. » Mais la seule raison qu'on le fait, c'est parce qu'on a peur des conséquences. Ça arrive-tu, ça, des fois? Je suis-tu le seul? Est-ce que je suis tout seul? Non? OK. Hein? Mon grand-père me fait « Oui. » Hein? Ça arrive-tu que des fois, là, on va pêcher, on va se revirer à Dieu, on dit « Ah, je m'excuse, Seigneur, j'ai pas été correct. » Dans le fond, que... ça ne nous dérange pas vraiment notre péché. On a juste peur des conséquences. On a peur de ce qui peut arriver. David, lui, s'est pas simplement repenti pour éviter les conséquences. David, au contraire, il a humblement confessé son péché. Et puis, ça me rappelle un verset de Proverbe 28:13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Si vous décidez de cacher vos péchés, si vous pensez que vous êtes correct parce que personne ne le sait, votre secret, votre petit péché qui est caché, la Bible nous dit que vous ne prospérerez pas. Mais celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Finalement, regardons la repentance de David. Les conséquences qu'il a eues dans sa vie. Malgré le fait que David se soit repenti, il a quand même dû faire face à plusieurs conséquences. Premièrement, son fils est décédé. On voit ça au verset 18. Aussi, il y a eu de la calamité dans sa famille à partir de ce moment-là. Nathan lui a prédit qu'il allait avoir bien des troubles. Ça commence à partir du prochain chapitre. Le fils de David décide de violer sa sœur. Ensuite de ça, l'autre fils à David décide de tuer le frère qui a commis le viol. Après ça, le fils qui a commis le meurtre, il s'enfuit. Le fils qui revient, c'est comme une espèce de gros jeu de chaise musicale. Il revient, il chasse David du palais. Il y a eu des troubles à partir de ce moment-là. Et aussi, ça a été prédit au verset 11 que quelqu'un de la maison de David allait s'élever contre lui. Nathan qui parle ici au verset 11. « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. » Et ça a été accompli au chapitre 16, verset 22. Le fils de David lui-même qui fait exactement ce qui est décrit dans ce verset-là. Alors, on peut confesser nos péchés à Dieu et il va nous les pardonner. 1 Jean 1:9, vous pouvez tourner là s'il vous plaît. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je suis content de voir cette promesse-là dans la Bible. On peut confesser nos péchés à Dieu et lui, il nous pardonne. Mais, sachez que le péché apporte toujours des conséquences inévitables. Si je décide de prendre une grenade, j'enlève la guppée, je la lance dans la salle, puis là je dis « Ah non, Seigneur, je m'excuse, je te demande pardon. » Oui, Dieu, si je suis sincère, Dieu va me pardonner. Ça, c'est clair. Mais ça reste qu'il va y avoir des conséquences. Premièrement, la grenade va exploser. Deuxièmement, le bâtiment va être assez endommagé, c'est sûr. Troisièmement, il y a beaucoup de monde qui vont mourir. Quatrièmement, si moi je ne meurs pas, je risque d'aller faire du temps en prison. Il y a toutes sortes de conséquences qui arrivent quand on pêche. Aussi, un monsieur qui va mentir à sa femme, qui commet l'adultère, et puis ensuite de ça, qui va décider de confesser son péché, il peut avoir un pardon. Ça reste que la relation ne sera plus la même, la confiance va être brisée. Ou encore, peux penser à quelqu'un qui s'est détourné de Dieu pendant longtemps, qui a décidé d'envoyer promener tout le monde à l'église pendant longtemps, et puis là, qui se décide, « Ah, ben je décide de revenir à l'église, puis je fais comme si de rien n'était. » On s'entend-tu que cette personne-là, ça peut prendre du temps avant que la relation revienne comme avant? Pensez pas que si vous commettez des péchés, que vous pouvez demander pardon et que tout va revenir comme avant dans toutes vos conditions sur la terre. Oui, Dieu nous pardonne. Oui, il n'y a plus de condamnation. Mais il y a des conséquences. Cette histoire ici nous le démontre très bien. David a perdu son fils. Il a eu des problèmes avec ses enfants. Et puis, il a eu son fils Absalom qui s'est retourné contre lui. Il y a des conséquences au péché. Alors, excusez, j'ai la misère. Marche plus, peux-tu l'avancer, Bobby? Parfait. Alors, en conclusion, repentez-vous rapidement de vos péchés. Faites pas comme David. Cachez pas vos péchés. Ça va juste vous conduire à commettre plus de péchés. David, dans l'histoire, quand il a décidé de cacher son péché, ça l'a tout simplement amené à en faire plus. Il a fallu qu'il mente, il a fallu qu'il manipule, il a fallu que, finalement, il tue un de ses meilleurs soldats. Cachez pas vos péchés. Repentez-vous rapidement. Aussi, confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques 5,16 nous dit exactement ça. Confessez vos péchés les uns aux autres. Des fois, c'est pas assez de juste aller en prière et de demander pardon à Dieu. Des fois aussi, c'est très bon de parler à quelqu'un de confiance et lui dire, écoute, j'ai de la misère avec ce péché-là. J'ai de la misère avec ma colère. J'ai de la misère avec la pornographie. J'ai de la misère avec le commérage. J'ai de la misère avec mes habitudes de dépenses. Je ne sais pas c'est quoi. Mais confessez-les, parlez-en les uns aux autres. Dieu nous a donné une belle grande famille. Dieu veut qu'on se tienne ensemble et qu'on confesse nos péchés les uns aux autres. Et puis, si je peux vous encourager à quelque chose aussi, c'est si quelqu'un vient vous dire quelque chose, vient vous confesser un péché, commencez pas à dire « Ah ben là, c'est pas correct ce que tu fais. » Justement, je pense que si la personne vient vous le confesser, c'est parce qu'il sait que c'est pas correct. Et n'ayez pas non plus un air de supériorité. Tu sais, « Ah oui, viens ici mon enfant, je vais prier pour toi. » Non, non, n'ayez pas un air de supériorité. Réalisez aussi que vous n'êtes pas différent, vous êtes un pécheur vous aussi. Confessez vos péchés les uns aux autres. Je vous encourage aussi, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui a un péché, qui se sent comme s'il ne peut pas en parler à personne, que vous sentez que vous aimeriez en parler, s'il vous plaît, venez me voir. Allez voir un des anciens qui sont ici ce matin. Allez voir quelqu'un de confiance, un mentor ou quelque chose. Mais parlez-en. Le diable veut que vous pensez que vous êtes tout seul avec votre problème. Il ne veut pas que vous en parlez. Finalement aussi, remerciez Dieu pour son pardon. Oui, il y a des conséquences inévitables au péché, mais il n'y a pas de conséquences éternelles pour le péché. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. On n'ira pas en enfer pour nos péchés. On peut être avec Dieu pour toujours. On peut remercier Dieu pour son pardon. Et comme David, lui, si on regarde toutes toutes les mentions de lui dans le Nouveau Testament, c'est toujours en bien qu'on parle de David. Même s'il a commis des crimes horribles, Dieu a juste du bon à dire de lui dans le Nouveau Testament, parce que c'est quelqu'un qui s'est quand même repenti de ses péchés. De la même façon pour vous, si vous vous repentez de vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Il les oublie. Jésus a payé pour nos péchés. Êtes-vous heureux de ça ce matin? Alors, on va terminer par la prière. Seigneur, je te remercie pour l'exemple de David qui nous montre que faut pas cacher nos péchés. Faut s'en détourner, Seigneur. Je prie de nous aider à confesser nos péchés les uns aux autres, à être une église qui va se parler ouvertement de nos péchés. Aide-nous, Seigneur, à réaliser à quel point que ton pardon est bon. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer de plus en plus à cause de ton pardon. C'est au nom de Jésus que je te prie ces choses. Amen.